Le mauvais génie, chapitre 18. Colère de Bonnard. Frédéric et Alcide restaient devant la porte de M. Georgey, muets et consternés. Frédéric pleurait. Alcide, les poings fermés, les yeux étincelants de colère, réfléchissait aux moyens de se tirer d'affaire en jetant tout sur Frédéric.
Qu'allons-nous devenir, mon Dieu, si M. Georgey va tout raconter à nos parents? Donne-moi un bon conseil, Alcide, toi qui m'as entraîné à mal faire et qui as toujours de bonnes idées pour t'excuser.
J'en ai une pour moi, je n'en ai pas pour toi.
Comment? Tu vas m'abandonner à présent que je suis dans la crainte, dans la désolation?
Je m'embarrasse bien de toi. Tu es un imbécile, un lâche. C'est ta sotte figure effrayée qui a attiré l'attention des gendarmes et qui nous a fait prendre. Maudit soit le jour où je t'ai mis de moitié dans mes profits.
Et maudit soit le jour où je t'ai écouté, où je t'ai aidé dans tes voleries. Sans toi, je serais heureux et gai comme Julien. Je n'aurais peur de personne et je serais aimé de mes parents comme jadis.
Vas-tu me laisser tranquille avec les Jérémiades? Va-t'en chez toi, tu n'as que faire ici.
Au moment où il disait ces mots, un seau d'eau lui tomba sur la tête et il entendit une voix qui disait:
Coquine, canaille!
Alcide, suffoqué d'abord par l'eau, ne put rien distinguer. Mais, un instant après, il se tourna de tous côtés et ne vit rien. Il leva les yeux vers la fenêtre de M. Georgey. Elle était fermée, le rideau était baissé, on n'y voyait même pas de lumière. Il était seul. Frédéric même avait disparu. Surpris, un peu effrayé, il prit le parti de rentrer chez lui et de se coucher. L'horloge du village sonnait 2 heures. Frédéric courait de toute la vitesse de ses jambes pour arriver chez ses parents, qu'il croyait trouver endormis depuis longtemps. Il ouvrit la barrière, se dirigea vers l'écurie où il comptait passer la nuit et vit, à sa grande frayeur, de la lumière dans la salle dont la porte était ouverte. Il n'y avait pas moyen d'éviter une explication. Il entra, Madame Bonnard poussa un cri de joie. Bonnard, qui sommeillait les coudes sur la table, se réveilla en sursaut.
« Comment, mes pauvres parents, vous m'attendez? J'en suis désolé. Si j'avais pu le deviner, je ne me serais pas laissé entraîner par la dernière représentation au théâtre. Et puis, ce bon monsieur Georgey, avec lequel je suis revenu, m'a fait manger dans un excellent café. Tout cela m'a attardé. Je vous croyais couché depuis longtemps, et bien tranquille sur mon compte. »
Pendant que tu t'amusais, Frédéric, nous nous faisions du mauvais sang. Nous nous tourmentions, te croyant seul avec ce mauvais sujet d'Alcide, car monsieur Georgey nous avait ramené Julien vers 9 heures.
Frédéric parut troublé. La mère pensa que c'était le regret de les avoir inquiétés.
Et sais-tu ce qui nous est arrivé pendant que tu t'amusais?
Frédéric ne répondit pas.
Nous avons été volés. Tu ne dis rien. Tiens, regarde l'armoire. On l'a brisée. On a pris l'argent du pauvre Julien. On a emporté nos 2 plus belles dindes. Pourquoi es-tu parti avant le retour de ta mère? Mais parle donc, tu es là comme un oison à écarquiller tes yeux. Qui est le voleur? Le connais-tu? L'as-tu vu?
Je n'ai rien vu, je ne sais rien. J'étais parti, je croyais... Je ne savais pas.
Va te coucher, tu m'impatientes avec ta figure hébétée. Demain tu t'expliqueras. Monsieur Georgey t'aura fait boire comme ce pauvre Julien. Va-t'en.
Frédéric ne se le fit pas répéter. Il alla dans sa chambre, plus inquiet encore que lorsqu'il était arrivé. Il se coucha, mais il ne put dormir. Au petit jour, il tendit l'oreille, croyant toujours entendre M. Georgey. L'heure de se lever était arrivée. Bonnard alla soigner les chevaux. Julien, levé depuis longtemps, l'aidait de son mieux. Frédéric n'osait quitter son lit et faisait semblant de dormir. Enfin, vers 8 heures, sa mère entra, le secoua. Frédéric, feignant d'être éveillé en sursaut, sauta à bas de son lit.
« Quoi? Qu'est-ce que c'est? Les voleurs ?»«
Il faut te lever, Frédéric. Ton père a déjeuné avec nous, puis il est parti pour aller faire sa déclaration à la ville. Voyons, habille-toi et viens manger ta soupe. »
Frédéric se leva. Il n'avait pas prévu que son père porterait plainte du vol commis à la ferme. Toutes ses craintes se réveillèrent. Il tremblait, ses dents claquaient.
« Quelle drôle de mine tu as! De quoi as-tu peur ?»«
De rien, de rien. Ce n'est pas moi qui vous ai volé. Ce sont les cheminots. »«
Comment le sais-tu? Tu les as donc vus ?»«
Je n'ai rien vu. Comment les aurais-je vus? De quoi aurais-je peur? Où est Julien? Est-ce que M. Georget est venu ?»«
Non. Pourquoi viendrait-il ?»«
Pour le vol, vous savez bien. »
« Mais en quoi cela regarde-t-il, Monsieur Georget ?»«
Je n'en sais rien. Est-ce que je peux savoir, puisque je n'y étais pas ?»«
Tiens, tu ne sais pas ce que tu dis. Viens manger ta soupe. Il est tard. »«
Je n'ai pas faim. »«
Tu es donc malade. Tu es pâle comme un mort. Voilà ce que c'est que de trop s'amuser et rentrer si tard. Viens manger tout de même. Il ne faut pas rester à jeun. Tu prendrais du mal. L'appétit te viendra en mangeant. »
Frédéric, obligé de céder, suivit sa mère et trouva Julien qui balayait la salle et rangeait tout. Ils se regardèrent tous deux avec méfiance. Frédéric craignait que Julien n'eût deviné quelque chose. Julien avait réellement des soupçons qu'il ne voulait pas laisser paraître. Frédéric finissait sa soupe quand M. Georget parut. Julien courut à lui.
« Je suis content de vous voir, monsieur. Hier soir, en me déshabillant, j'ai trouvé beaucoup de pièces d'or dans la poche de mon habit. Elles ne sont pas à moi. Elles doivent être à vous. J'étais tout près de vous. Je pense que vous vous êtes trompé de poche. Au lieu de mettre dans la vôtre, vous avez mis dans la mienne. »«
Non, non, je n'avais mis rien. Je n'avais touché rien. J'avais dormi comme toi, pauvre petite Julienne. » J'ai compris, je savais, c'était les malhonnêtes, les coquines, Alcide, Frédéric. Ils avaient volé moi et mis une petite somme dans les gilets de toit pour dire « c'était Julien, le voleur de Georget. »
Madame Bonnard ne pouvait en croire ses oreilles. Elle tremblait de tout son corps.
« Oh, Master Bonnard, j'avais à dire une terrible histoire à lui et à pauvre Madame Bonnard. Ah, les voilà, Master Bonnard. Venez vitement. J'avais à dire à vous, votre Frédéric, il était un voleur horrible. Alcide, une coquine davantage horrible, abominable. »
Bonnard, qui venait d'entrer, devint aussi tremblant que sa femme. Frédéric, ne pouvant s'échapper, était tombé à genoux au milieu de la salle. Julien était consterné. Personne ne parlait. M. Georget raconta de son mieux ce qui lui était arrivé depuis qu'ils avaient rencontré Alcide et Frédéric. Il dit comment il avait trouvé sa poche vide en rentrant chez lui, comment il était retourné à la ville pour porter plainte, qu'en cherchant Alcide et Frédéric, il avait été encore volé par 2 jeunes gens qu'on avait arrêtés et sur lesquels on avait trouvé sa montre, sa bourse et une autre montre dont les gendarmes cherchaient le propriétaire et qui était celle qu'Alcide et Frédéric venaient d'acheter. Il parla avec émotion de sa douloureuse surprise quand il avait vu Frédéric amené par les gendarmes en compagnie d'Alcide. Quand il avait vu Frédéric ayant dans sa poche une chaîne d'or et des guinées qui étaient précisément celles qu'on lui avait volées à lui, Georget. Il raconta sa généreuse résolution de sauver l'honneur de ses amis Bonnard. Il avait dû en même temps, quoique à regret, certifier l'innocence d'Alcide, puisque les 2 garçons avaient été arrêtés ensemble. Il expliqua comment il avait déclaré leur avoir tout donné et comment, après cette déclaration, il les avait emmenés avec lui. Il raconta comment Alcide avait dû couler des pièces d'or dans la poche de Julien pour rejeter le vol sur lui.
J'avais dit toutes les choses horribles au papa Alcide. Le papa avait donné à Alcide un bâtonnement si terrible que les misérables, il était resté couché sur la terre. Je croyais Frédéric pas si horrible. Il avait écouté l'Alcide abominable. Je croyais il avait du chagrinement, du repentissement, qu'il ferait plus jamais une volerie si méchante. Mais j'avais dit à vous pour que le pauvre Madame Bonnard et vous, Master Bonnard, vous savoir comment a fait votre garçon. C'était très fort vilain, et les pauvres petites Julienne avoir rien fait mauvais. Ce n'était pas sa faute avoir pris beaucoup des boissons, des vins. C'était moi les criminels, les malheureuses, avoir fait ivre les pauvres petites. J'avais donné méchant exemple aux petites. J'avais une honte terrible. J'avais un chagrinement horrible. Je prenais résolution jamais boire davantage plus un seul bottle vin. Je promettais, j'ai assuré, j'ai juré, un seul bouteille. J'avais fait jurement à mon cœur.
Madame Bonnard sanglotait. Bonnard avait laissé tomber sa tête dans ses mains et gémissait. Frédéric, atterré, plus pâle qu'un linge, s'était affaissé sur ses genoux et n'osait bouger. Julien pleurait en silence. M. Georgey les regardait avec pitié.
« Pauvres parents, j'avais devoir de parler. Pour les turkeys, moi j'avais rien dit, et moi avais fait découverte que les deux étaient petites voleurs. J'avais croyance que plus jamais voler des turkeys, et j'avais acheté tous les turkeys pour empêchement voler eux. Mais je ne pouvais pas faire un cachement d'hier, c'était trop mauvais. »
« Et le vol de l'armoire ?»
s'écria tout à coup Bonnard en s'élançant sur Frédéric et le saisissant par les cheveux.
« Dis, parle, à vous, scélérat.
Alcide !»«
Tu l'as vu, tu le savais. »«
J'y étais. »«
Pourquoi as-tu brisé au lieu d'ouvrir ?»«
Alcide, pour faire croire que c'était des voleurs. »
Et moi qui ai porté plainte, et les gendarmes qui vont venir, et mon nom qui sera déshonoré. Misérable, indigne de vivre, je ne peux plus te voir. Je ne veux pas être déshonoré par toi. Et ta pauvre mère, montrée au doigt, mère d'un voleur. Voleur, voleur, mon fils, voleur.
Et Bonnard, fou d'épouvante et de douleur, saisit une lourde pince, et, levant le bras, allait le frapper d'un coup peut-être mortel, lorsque M. Georgey, s'élançant sur lui, l'étreignit de ses bras vigoureux et, malgré sa résistance, l'entraîna dans la chambre voisine. Frédéric était tombé sans connaissance. Julien soutenait Madame Bonnard, à moitié évanouie sur sa chaise. L'Anglais avait fermé à double tour la porte de la chambre, de peur que Bonnard ne lui échappât.
Craignez pas, pauvre créature, pas de déshonorement, moi tout arrangé, moi dire comme hier, c'était moi.
C'est impossible, impossible, on va faire une enquête. Je ne veux pas qu'on vous croie un voleur, un scélérat. Personne ne le croirait d'ailleurs. Vous, riche, brisez un meuble pour voler un pauvre homme. C'est impossible, personne ne vous croirait.
Croirait très parfaitement, je disais, moi, Georgey, voulais habillement joli de petite Julienne pour les foires. Moi, Georgey, pas trouvé les clés. Moi, Georgey, beaucoup fort entêté. Moi, voulais, j'ai voulu habillement. Moi, Georgey, riche. Moi, casser fermeture. Moi, prendre habillement et argent pour amuser petite Julienne et les autres. Car moi, oublier emporter jaunet dans ma poche. Moi, revenir de foire trop tardivement hier, moi, revenir en les jours d'aujourd'hui pour raconter, demander excuse et faire paiement pour dédommager. et j'ai fait paiement avec les journées du pocket de la petite Julienne. C'était très bien, ça. Moi, payé bon dîner à gendarme et tout sauvé. »
À mesure que M. Georgey parlait, le visage de Bonnard s'éclaircissait. Quand M. Georgey eut terminé son explication, le pauvre Bonnard, rempli de reconnaissance, se précipita à genoux devant le généreux Anglais et, joignant les mains, s'écria.
« Oh, monsieur, vous me sauvez plus que la vie. Vous sauvez notre honneur à tous. Vous sauvez mon misérable fils. Vous me sauvez d'un crime. Je n'aurais pu le voir sans le maudire, sans le tuer peut-être. Oh, monsieur, soyez béni. Toute ma vie, je vous bénirai comme mon bon ange, mon sauveur. »
Non, non, my dear. C'était trop pour un pauvre homme solitaire, ridicule. Je savais que je faisais des sottises, beaucoup, que les autres riaient de moi. Je savais, il faisait justice. »
Quand Bonnard fut tout à fait remis, M. Georgey lui permit de rentrer dans la salle pour consoler et rassurer Mme Bonnard.
« Quant à Frédéric, faites-le partir, que je ne le vois plus. »
« Non, Master Bonnard, c'était pas bon, c'était mauvais. Frédéric, très désolé. Frédéric, très fort repentissant. Frédéric, toujours votre garçon. Vous lui grondez pour vous faire agrément. Vous les tapez un peu, mais faut pas chasser. C'était mauvais, c'était méchanceté. Voyez, bon Dieu, pardonnez toujours. Vous, papa, comme bon Dieu, et vous pardonnez. Entrez vitement. »
M. Georgey ouvrit la porte, poussa dans la salle Bonnard qui hésitait encore. Frédéric était toujours étendu sans mouvement. Julien était occupé de Mme Bonnard qui continuait ses sanglots. Bonnard alla à elle.
« Rassure-toi, console-toi, ma pauvre femme. Il n'y aura pas de déshonneur ni d'enquête. Notre sauveur, le généreux M. Georgey, a tout arrangé. »
Bonnard lui expliqua les intentions de M. Georgey. Quand Mme Bonnard eut bien compris la généreuse résolution de l'Anglais, elle, à son tour, se jeta à ses pieds, lui embrassa les genoux, lui adressa les remerciements les plus touchants. Le pauvre M. Georgey cherchait en vain à terminer une scène qui l'embarrassait. Il n'y put parvenir qu'en lui montrant le corps de son fils étendu sur le plancher. Mme Bonnard s'élança sur le corps inanimé de son fils.
« Mais je l'avais oublié dans mon chagrin !»
Avec l'aide de Julien et de M. Georgey, Frédéric fut relevé, déshabillé, couché, frictionné de vinaigre. Il ouvrit enfin les yeux, regarda d'un air effaré les personnes qui l'entouraient. En jetant les yeux sur son père, il poussa un cri d'effroi, se débattit un instant et perdit encore connaissance.
Master Bonnard pas resté. Frédéric avait un épouvantement très gros. Madame Bonnard seule restée avec petite Julienne.